Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeau. Aujourd'hui, je reçois Pierre Mandeville, il nous parle de la Traversée, centre de crise et de prévention du suicide. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, le lâcher-prise. Notre invité en début de deuxième demi est Anuradha Dugal, elle nous sensibilise sur la violence conjugale. On commence en chanson avec Saramé, la chanson s'intitule « Haut les cœurs ». Bienvenue chez nous.
Un endroit où rêver à chaque saison. Ensemble on gagne, ensemble on rit et on fonce. C'est toujours pour les bonnes raisons. Si on y croit, on réussit. Ça rajoute des couleurs à l'horizon. Y'a de la magie derrière un sourire. Comme une rose en pleine floraison. C'est notre rap, laissons le parler. Notre héritage que l'on partage, gravé sur papier. Avançons vers nos rêves, nos chemins sont précis. Avec cœur et courage, on sait que tout est possible. Marcher vers la lumière, à en être ébloui. Chanter à tue-tête, danser sous la pluie. On va briller comme on s'est promis. Amis pour la vie, frères et sœurs jusqu'à l'infini.
Branché sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
C'est avec plaisir que j'accueille mon invité, Pierre Mandeville. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
On se connaît depuis des décennies.
Dans une ancienne vie.
Ça ne rajeunit pas.
Les cours de communication.
Ben oui, exactement. Alors, ben oui. Je suis heureux de t'accueillir pour la première fois à l'émission.
Oui, c'est chouette de se retrouver, oui.
Oui, et puis tu es intervenant en fait à l'organisme la Traversée, centre de crise et de prévention du suicide qui est à Sorel-Tracy.
Exactement, oui.
Peux-tu nous... on va parler évidemment de l'organisme et de suicide et de toutes les problématiques que tu peux rencontrer comme intervenant et que les autres intervenants rencontrent aussi. Mais peux-tu nous parler comme un peu de ton cheminement? Pourquoi tu es devenu intervenant au niveau de...
Bien, j'ai un profil de carrière assez compliqué dans le sens où j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais j'ai travaillé entre autres en psychiatrie à Montréal, dans un département en milieu hospitalier. J'ai toujours fait du bénévolat également, puis c'est une cause qui me tient à cœur. Moi, je fais ça à temps partiel, je suis retraité, alors je fais environ 8 heures semaine. Je suis intervenant plus pour le lien entre le département de psychiatrie de l'hôpital et chez nous. Pour des lits d'hébergement transitoire. Mais je remplace à l'occasion sur la ligne téléphonique. C'est un service 24/7, comme la majorité des centres de prévention du suicide.
Il faut être dédié, il faut vouloir faire ça, il faut le faire pour les bonnes raisons. J'imagine que toi, ton background fait en sorte que tu veux aider. Là.
Oui, mais on a quand même des formations en continu tout le temps, parce que ça prend une formation tout de même là, pour comment aborder certaines personnes en crise. Entre autres, la toxicomanie maintenant qui fait partie du quotidien, alors qui modifie un peu le pattern d'intervention avec les gens. Mais c'est très intéressant, si on peut dire ça comme ça. Mais,
Tu es originaire de Sorel.
Oui.
Est-ce que tu trouves que le milieu social a beaucoup évolué à travers les années? Là?
Disons les pertes d'emploi massives qu'il y a eu durant certaines années, si je ne m'abuse, je pense que c'était les premières années où ça a été fondé, qui était le centre de prévention du suicide,
ouais.
Tout simplement.
Okay.
Et puis ça s'appelait, je pense, à l'écoute bonsoir ou quelque chose comme ça. Maintenant, ben, on parle d'une quarantaine d'employés sur du 24/7. Mais pour revenir à ta question, est-ce que ça a changé? On a plus d'appels au niveau statistique qu'avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de suicides ou de... Moi, je pense qu'on est plus connus aussi à travers le Québec aussi, parce qu'on n'est pas les seuls. Nous, on est détenteurs de la ligne 1-866 d'appel, ainsi que suicide.ca, on pourrait y revenir tantôt. Mais je pense qu'on est plus connus, les gens ont plus le réflexe d'appeler, mais pas encore assez.
C'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, parce qu'on veut désamorcer les crises. Puis quand les gens appellent, c'est parce qu'ils cherchent de l'aide, puis s'ils trouvent de l'aide, bien, c'est bon signe.
Le suicide, Yvan, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Je vulgarise un peu, c'est au moment d'une crise, si la personne a le réflexe d'en parler, d'appeler, puis toutes les publicités vont dans ce sens-là, on a des bonnes chances de faire baisser la crise, en grande majorité. Mais la santé mentale étant c'est quelque chose, de par ton émission, c'est les gens ne veulent pas en parler, c'est encore tabou. Oui, encore aujourd'hui, malheureusement.
Ouais.
On a des groupes, entre autres, endeuillés par suicide. C'est pas le même deuil, pas du tout, du tout. On a des groupes régulièrement. On peut rencontrer les gens également qui sont pas confortables, soit au téléphone, on peut les rencontrer en personne.
Ouais. Parce que les gens souvent se disent, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher l'approche de se suicider? Tu sais, c'est un peu le...
Ben, le but, c'est pas d'avoir des gens spécialistes partout. Moi, les gens appellent, puis on me dit souvent, « Ah, mais ça doit être plate, ta job. » Non, mais c'est ma job, c'est mon travail, et je suis détaché émotivement aussi. Moi, je pense qu'un de mes proches me parlerait de ça, je serais probablement un peu déstabilisé. Mais le but, c'est que si quelqu'un t'en parle, tu réfères vers un organisme, chez nous, par exemple.
Ouais.
Et un nouveau service, j'ai abordé rapidement, c'est qu'on a suicide.ca. Il y a une antenne à Québec, Montréal, et dans les régions, l'an dernier, on est devenu détenteur de suicide.ca. C'est par le chat, par texto également. Mais une intervention à suicide.ca, disons, complète, peut durer entre 2 et 3 heures.
Parce que c'est un peu la nouvelle réalité. Là. Les gens ne prennent pas juste l'appareil.
C'est une nouvelle réalité.
Ils vont chatter, puis ils vont se confier. Peut-être c'est plus facile.
Oui, il y a un temps d'attente assez intense.
Ouais.
Moi-même, moi, j'y touche pas. Je vais être honnête avec toi, mais c'est un besoin. Moi, je ne suis pas vraiment confortable avec ça. Hein? Chacun... mon vieil âge, probablement. Mais non, c'est un besoin, c'est une réalité maintenant. On ne peut pas s'en sauver.
Ouais.
Moi, déjà, avec la voix et tout ça. Mais c'est plus... Il y a une formation encore plus longue également. Mais il y a un processus. C'est des grilles d'évaluation aussi. C'est pas Pierre Mondeville qui décide que...
Mm-hmm.
On a des grilles d'évaluation. On n'est pas des robots. Mais il y a des critères qui font qu'une personne va côté rouge, ce qui est très urgent, ouvert. Il n'y a pas vraiment de danger.
Oui, si on vient à la traversée, on pourra poursuivre la détresse humaine et tout, mais la traversée, donc l'organisme Centre de crise et de prévention du suicide existe depuis longtemps?
Au moins une vingtaine d'années.
Puis comment tu peux nous le présenter? Comment ça se présente physiquement? C'est une maison?
C'est une maison dans un beau quartier à Sorel, tout près du fleuve. Pas directement sur le fleuve, mais boisé, un beau terrain. Alors, quand je te parle d'hébergement transitoire, des gens qui sortent de la psychiatrie, qui sont pas prêts à s'en aller tout seuls à la maison, par exemple, ils s'en viennent chez nous pour une durée de quelques jours, à maximum 3 mois, mais c'est très, très variable. Il y a des réévaluations. Et c'est un climat familial. C'est une ancienne maison familiale de 2 étages. Et là, maintenant, on a un total de 6 lits. On va agrandir, d'ailleurs. On a été les récipiendaires du Rona. Rona, la rénovation Rona, alors
Vous allez avoir les moyens de pouvoir...
300 000 $ okay. On devrait débuter ça pour dans développer. Les prochains mois pour agrandir. On est un peu à l'étroit, là. Les bureaux d'intervention, on est un petit peu à l'étroit. Là.
Donc, il y a plus que la ligne d'écoute, que le chat, il y a vraiment de l'aide, même...
L'aide physique.
Tu parles des lits, oui. Là, puis ça prend... c'est quand même... Ça aide, c'est certain. Là. Il y a des gens qui en ont besoin.
Oui, puis c'est un climat, je le répète, familial. Alors, les gens qui arrivent chez nous, le milieu hospitalier... Et là, pour une première ligne, on va le définir comme ça, en crise, les gens ont besoin d'un encadrement plus strict. Mais entre l'hôpital et la maison, c'est deux. Mais chez nous, c'est vraiment, c'est une maison familiale, ils ont leur chambre, mais ils contribuent aux travaux, dans le sens de faire la cuisine en équipe, tout le monde. Alors, tout le monde mange ensemble. Une belle dynamique, très, très belle dynamique, et ils sont en sécurité. Si quelqu'un a besoin d'accompagnement pour des démarches juridique ou trouver un autre appartement ou des choses comme ça, on est là également, on les rencontre à tous les jours. Et,
C'est intéressant. Si on venait aux problématiques, dans le fond, tu interviens, tout ça, qu'est-ce que tu trouves peut-être le plus gratifiant dans ce que tu fais? Parce que si tu continues, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, quand même, qui te...
Bien, quand on a quelqu'un, OK, je vais parler au niveau personnel, ouais. Quand une personne est en crise, ça va vraiment pas bien et on réussit à désamorcer la crise. Et la personne est beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, on fait le reflet à la personne. Quand tu me parlais il y a une demi-heure, tu hurlais dans le téléphone. Et là, tu es capable de me parler comme on se parle présentement. Quand tu fais le reflet avec la personne, ah, ben oui, tu sais, il faut que tu laisses le temps à la personne. C'est des techniques, faut dire, d'exprimer les émotions, ventiler. Et à un moment donné, on tombe dans des choses. Toujours en validant le risque suicidaire, très important.
On dit souvent que l'écoute active, justement, c'est de laisser la personne elle-même faire le cheminer, oui. Ou en tout cas trouver les solutions. Là.
Oui, j'aime l'image qu'on est comme on envoie l'éclairage, certaines choses à la personne, ouais. Pour la faire comme développer sur une problématique ou quelque chose. Mais ça prend du temps, il ne faut pas que tu te lances tout de suite là-dessus. Tu laisses l'émotion passer le plus temps. Puis moi, je me gêne pas, je dis à la personne, écoute, crie, hurle, pleure, là, mais on peut pas discuter en même temps, là, tu sais, mais doucement, alors, la personne. À un moment donné, l'écoute se fait, l'intervention. Et quand ça réussit, c'est bien le fun. C'est bien gratifiant.
Est-ce que ouais. Ça t'arrive de pas assez te détacher? Parce que c'est prenant aussi. Les gens qui l'ont pas fait, tu sais, ce genre de service-là, est-ce que peut-être qu'ils ont peur, justement, d'être affectés, là, dans leur vie?
J'emmène pas les problèmes à la maison. C'est la question. Ça m'est arrivé, moi j'ai déjà fait du bénévolat en soins palliatifs et c'est arrivé une seule fois que okay. J'avais ramené ça à la maison.
Tu réussis
dans des circonstances particulières, oui, il faut. Mais on a une bonne équipe, on a de la coordination clinique, des gens qui sont toujours là. Même à 3 heures du matin, j'ai un cas très, très difficile. Je peux appeler une personne de la coordination clinique pour en parler, pour ventiler. On est des humains, hein? Des fois, je répète ça souvent, on n'est pas des robots, là. Les gens, ah, tu fais ça, c'est ta job. Oui, mais je ne suis pas un robot. Ce que tu me dis, là, j'ai des émotions dans ce que tu me dis, là.
Ouais.
C'est débroussailler tout ça. Parce que la personne en crise, tout est mêlé, là. Sa blonde, là, ça a créé là. Il n'est plus capable de payer le loyer. C'est un paquet d'affaires. Puis là, il voit le tunnel, il voit le suicide. Et c'est de désamorcer ça le plus possible. On offre la personne, des fois. Tenterais-tu de t'en venir ici? Quelques jours? Parce okay. Qu'on a des lits de crise également. Ouais. Qui est du 24 à 48 heures. Encore là, ça peut être 24, 48... un peu plus, c'est vraiment pour que la personne retombe un peu sur ses pattes.
C'est plutôt rare, ça, d'ailleurs, tu sais, parce que tu as une ligne d'écoute, souvent, c'est rare que les gens vont passer du temps au téléphone ou par chat, mais d'avoir ce service-là, je trouve c'est intéressant, parce que la personne qui est au bout va peut-être dire, ah, ben vous avez ça, tu sais, ça va être quand
oui,
même ben, surprenant.
On dirige les gens, à un moment donné, coudonc, t'enlever, moi j'appelle ça la voie de service, tu sais, ouais. Quand t'es dans le trafic, là, ça tenterait-tu que ça soit...
Juste calmer un peu...
J'ai pas toute sa clé là, mais... Il y a tant chez nous, ça ne coûte rien, puis ça va. Tu vas te déposer un peu.
Ouais, ouais.
Oui.
C'est intéressant, c'est un service qui.
Ben avec les années, je pense, Yvan, on développe les centres, on développe une expertise à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui fait le plus de bien? Tu sais, quelqu'un qui c'est tout noir, là, à un moment donné, ah ouais, OK, je peux aller jaser en personne. Oui, on va te fixer un rendez-vous, viens-t'en. Il y en a qui arrivent en urgence, mais ben oui, quelqu'un va venir nous rencontrer, on assigne une personne.
Parce qu'on a toujours l'impression que c'est anonyme, tu sais, puis que autant les ouais. intervenants que les personnes veulent pas nécessairement dévoiler.
C'est confidentiel, mais c'est pas anonyme.
C'est pas anonyme, c'est ça?
Non, non, parce que, puis la raison que je donne très rapidement, c'est que si la personne m'appelle, puis elle veut pas me donner son nom, ça arrive, mais plutôt rarement, parce que je me dis, ça va pas bien la nuit prochaine, moi je suis pas là 24 heures sur 24, ça te tentera peut-être pas de tout répéter ton histoire, tu sais. Ouais. Mais on a un code d'éthique, c'est hermétique, là, c'est la confidentialité. Mais non, ce n'est pas anonyme.
Ou s'il arrive quelque chose, bon, moi, tu as peut-être le contact pour avertir les
effectivement,
les urgences.
Je te dirais, c'est la première chose. Mais en général, non, il n'y a pas peut-être rencontré deux personnes, moi, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas voulu rien donner.
Okay.
Parce que quand tu développes une conversation, à un moment donné, mais tu rassures la personne comme quoi c'est confidentiel, mais ce n'est pas anonyme.
Oui, Pierre, il nous reste une couple de minutes, mais une large question, je pose souvent aux invités, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour améliorer? On parlait tantôt du tabou, de la santé mentale. En théorie, tout est beau, mais dès que les gens, des fois, on voit ça dans leur milieu, dans leur entourage, font un pas derrière, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour améliorer tout ça?
Mais je pense que tu abordes souvent la question dans ton émission, Yvan, c'est le tabou. Et c'est encore comme ça. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple rapidement. Tu te casses une jambe en sortant, là. Tu te poseras pas la question. Hein. Tu vas aller directement à l'hôpital. À l'époque, tu te faisais faire un plâtre, puis c'était même drôle. Tu sais, on écrivait dessus. La santé mentale, la grande majorité... Ah, ça va passer, là. Alors, c'est un down, j'ai le blues, puis... Mais si on prenait autant soin de notre santé mentale que santé physique, je pense que ce serait très
différent. Donc, en parler plus...
Énormément.
Essayer de démystifier plus.
Puis les numéros sont connus maintenant, là. Quelqu'un n'a pas à être tout seul avec ça, là.
Oui. Il nous reste environ quelques secondes. En fait, j'aimerais ça qu'on mentionne quand même les coordonnées. Si les gens veulent savoir plus... J'imagine que votre service est plus pour la région Sorel-Tracy.
Bien oui, le site Internet, c'est la région Sorel-Tracy, mais c'est la ligne 1-866-APPEL ou suicide.ca. Mais vous pouvez trouver les coordonnées. Mais là, 1-866 appelle.
Partout
si vous appelez
Québec,
Saint-Georges-de-Beauce, vous allez être dans un centre de prévention du suicide.
Et on va être directement dirigé dans le centre le plus proche de chez soi.
Effectivement.
Là. C'est ça.
Effectivement.
C'est très intéressant. Merci, Pierre, d'être passé à nos studios. Puis bonne continuation et puis bonne chance avec la traversée, centre de crise et de prévention du suicide. Puis bonne suite. Puis on
merci,
a besoin de gens comme vous.
Au plaisir. Merci.
Au plaisir. Salut.
C'est gentil.
Bye-bye.
Aujourd'hui, je me suis levée, j'étais chill et motivée. Ça a tenu 22 minutes, à 10h, je voulais qu'on bute. Bon, bah super. Faut pas se rouler sur les réseaux, car ça défonce le cerveau. J'ai lu des tas de trucs sur ça, en scrollant sur Insta. Bon, bah super. J'ai mis BFM TV, y'a 20 000 morts à la seconde. Et à Lyon, ils ont fait la plus grosse choucroute du monde. Bon, bah c'est super. L'abbé Pierre a fait des tiendraient la bombe atomique. Ces news feraient des scores de tarés. Des gens
perd sa voix. Bon, bah super.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, le lâcher prise.
Le lâcher prise, oui, c'est une expression qui est rentrée dans la langue québécoise depuis longtemps. Je suis allé sur le site Cap Santé Mentale, un site canadien. C'est un article qui a attiré mon attention qui s'appelle « Apprendre le lâcher prise ». C'est écrit par une dame du nom de Gabrielle Brindamour qui est directrice générale à l'Accolade Santé Mentale ici au Québec à Châteauguay, qui a comme mission de soutenir, de regrouper et de représenter les membres de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale.
Des fois, je me demande si on sait vraiment ce que c'est lâcher prise, parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on doit pas lâcher prise sur tout, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est lâcher prise? C'est ce qu'on va peut-être savoir avec ta chronique.
Justement, oui.
Ouais.
Non, c'est pas simple. Non, tu as raison là-dessus. Alors, Mme Brindamour nous dit « Vous connaissez sûrement l'expression populaire « lâcher prise ». Cette formule fait appel à une forme d'abandon du contrôle que nous pouvons exercer dans différentes sphères de notre vie. Ce concept peut s'expliquer et s'appliquer de différentes façons. Il s'avère donc important de comprendre et d'explorer les pistes qui peuvent nous permettre de lâcher prise. Elle nous dit « Pour bien cerner le concept, il faut comprendre que le contraire de lâcher prise est la prise de contrôle. Or, lorsque votre proche doit composer avec un problème de santé mentale, le premier réflexe que vous alliez développer est celui de l'aider, voire même de vous oublier. Cette façon de faire est peut-être volontaire de votre part, mais elle peut également être reliée à des pressions sociales, à votre culture ou votre morale. » De votre point de vue, votre attitude est assurément compatible avec un positionnement responsable, puisqu'en raison des symptômes qui accablent votre proche, vous l'aidez dans la gestion de l'organisation de sa vie. Une situation qui est quoique exigeante, réconfortante dans la mesure où vous avez le contrôle. En ce sens, il faut que je dois faire ou il faut que sont des expressions qui se retrouvent peut-être dans votre vocabulaire courant. Dans les événements qui concernent votre proche, il est important que vous distinguiez ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez ni contrôler ni influencer. Cette première démarche est favorable pour vous aider à lâcher prise et ainsi éviter de vous épuiser. Par ailleurs, penser de façon continue, voire même obsessionnelle à un problème est la plupart du temps inefficace et ne le règle surtout pas. Cependant, si vous en détachez, vous verrez émerger des solutions que vous n'aviez peut-être pas imaginées auparavant. Madame Brindamour nous dit « Voici quelques pistes qui vous permettront d'entamer votre réflexion, cette dernière pouvant se faire à l'aide d'une personne de confiance. Pour vous situer parmi les suggestions qui vous sont présentées, pensez à toutes les fois où vous avez répété les mêmes interventions auprès de votre proche qui n'ont pas donné les résultats escomptés, créant chez vous à chaque fois la même déception. » Alors, Mme Gabrielle Brindamour nous dit premièrement, prenez conscience de vos émotions face à ce qui vous arrive. Deuxièmement, prenez conscience de l'inefficacité du contrôle sur ce que vous ne pouvez pas changer ni influencer. Troisièmement, devenez conscient de toute la perte d'énergie et de bien-être que représente votre acharnement. Quatrièmement, acceptez d'abandonner l'idée de ce à quoi vous teniez. Et cinquièmement, acceptez de vous pardonner. Lâcher prise implique qu'il faudra peut-être que vous changiez en acceptant vos limites et en conservant vos valeurs. Il s'agit d'un concept où vous devrez accepter de renoncer à un certain contrôle sur l'autre et non pas de renoncer à vos buts et objectifs. N'oubliez jamais que lâcher prise est compatible avec l'action, mais il impliquera parfois une action différente et adaptée. Pour illustrer le concept, imaginez une mouche prisonnière de votre maison. En voyant la lumière de la fenêtre, elle fonce vers la liberté, mais se frappe sur la vitre. Malgré le fait qu'elle répétera cette stratégie pendant des heures, même si ce moyen est totalement inefficace, elle finira par s'épuiser, allant jusqu'à mourir. Ne faites donc pas comme cette mouche, ouvrez la voie à des actions différentes qui vous permettront de vous libérer de l'emprise dont vous faites l'objet. Comme la majorité des accompagnateurs, Mme Brin d'Amour nous dit que vous devez faire face à plusieurs défis et responsabilités qui font en sorte que vous oubliez de prendre soin de vous. Votre désir de voir la condition de votre proche s'améliorer fait en sorte que votre générosité peut vous jouer de vilains tours. Vous le savez sans doute, l'oubli de soi et l'implication auprès de votre proche ont leurs limites et surtout leurs conséquences. Alors, permettez-vous de considérer votre souffrance et, même si c'est difficile à appliquer, accordez-vous le droit de prendre soin de vous. Il est peut-être temps, nous dit Mme Brin d'Amour, pour vous de reconnaître et de mettre vos limites en disant « stop ». Les accompagnateurs qui soutiennent leurs proches peuvent facilement se faire des scénarios en imaginant le pire. Les « si » peuvent vous conduire à l'angoisse et à un très haut niveau d'inquiétude. Or, il existe des moyens pour prendre soin de vous en établissant vos limites et en apaisant votre anxiété. Pour y arriver, il est probable que vous ayez besoin d'aide. Dites-vous que c'est normal. Voici maintenant quelques pistes qui vous permettront de vous sentir mieux. Il y en a 8 au total. Premièrement, identifiez clairement vos besoins et classez-les par ordre d'importance pour vous. Deuxièmement, dites clairement vos attentes en vous assurant que votre proche a bien compris. Troisièmement, écoutez les réactions de votre proche et par la suite, faites entendre votre opinion. Quatrièmement, pour détendre l'atmosphère, mettez un peu d'humour dans vos échanges. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan.
Et on va poursuivre la liste un peu plus tard à l'espresso allongé sur le même sujet. Merci, Pierre.
Retour au micro à Folie Douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale.
J'accueille maintenant mon invité, Anuradha Dugal. Bonjour Anuradha et bienvenue à l'émission.
Bonjour Yvan.
Bonjour, tu es directrice générale d'Hébergement Femmes Canada, un organisme qu'on va apprendre à connaître, mais on va aussi apprendre à connaître un peu la sensibilisation qu'il y a au niveau de la violence conjugale. Il y a une campagne nationale de sensibilisation qui a été faite en début 2026, mais d'abord parlons d'Hébergement Femmes Canada. Comment on peut décrire l'organisation?
Mais c'est une organisation qui regroupe les associations provinciales et territoriales des maisons d'hébergement. Alors, nous sommes comme un organisme parapluie qui soutient les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, de violences entre partenaires intimes. Donc, il y en a à peu près 600 au Canada, à travers le pays. Et ce sont des places, des lieux où les femmes et leurs enfants qui fuient la violence peuvent vraiment trouver la sécurité. Nous avons également un site web. Si jamais vous voulez trouver une maison d'hébergement, la maison la plus proche de chez vous, ou un numéro pour une ligne d'écoute ou un numéro d'urgence. Vous pouvez le trouver sur notre site web hébergementfemmes.ca.
Pour donner une idée, quelle est la situation un peu de la violence conjugale? On l'entend dans les médias, on se dit est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est parce qu'on publicise plus? Comment vous pourriez décrire la situation actuelle au niveau de ce problématique-là?
C'est absolument vrai que nous vivant présentement au Canada et au Québec, on vit une situation assez grave avec des augmentations dans les taux de violence. Habituellement, nous parlons du fait que les féminicides sont en train d'accroître au pays, nous allons au pays comme dans toutes les provinces et tous les territoires. On avait dit il y a 5 ans ou il y a 10 ans qu'il y avait une féminicide par semaine. Mais là, on voit que c'est beaucoup plus souvent. C'est maintenant, on dit, c'est une féminicide ou 3 jours ou 5 jours. Alors, ça, c'est une chose qui est beaucoup plus grave qu'avant. Et le taux de violence, ça dépend, parce que ça dépend comment on la compte. Mais dans la vie, en nous disant que une femme sur 3 va vivre une situation de violence avec un partenaire intime dans sa vie. Alors, c'est aussi très complexe comme question, mais les situations sont aussi très graves présentement.
Oui, effectivement. Déjà, un féminicide, c'est extrême, mais comme vous dites, il y a beaucoup d'autres types de violences et c'est quand même beaucoup, un tiers des femmes qui va un jour ou l'autre avoir à conjuguer une situation de violence conjugale, donc c'est beaucoup.
Oui. Puis il faut aussi nommer que c'est pas juste la violence physique. Je pense que c'est important de décrire la violence. Ça peut être la violence psychologique, la violence financière, la violence, le contrôle, la manipulation, coercion. Ça peut prendre beaucoup de formes et je sais que souvent quand on dit abus ou violence, les personnes pensent à des blessures physiques, mais il y a aussi beaucoup de blessures émotionnelles, psychologiques qui viennent peut-être avec des violences physiques, mais c'est également la réalité que cette violence qui touche les femmes, qui a un effet énorme sur la vie, peut être aussi psychologique, émotionnel et autre.
Oui. Hébergement Femmes Canada, dont tu es directrice générale, Anuradha, a lancé une campagne début 2026, une campagne de sensibilisation de façon nationale qui se nomme « Je la recommande ». Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, c'est une campagne qui est très importante parce que ça introduit l'idée de parler de violence conjugale, de violence entre partenaires intimes au milieu de travail. Et pour nous, on voit qu'une fois, une travailleuse, un travailleur sur 3 a vécu une forme de violence conjugale au cours de sa vie, comme je viens de dire, mais beaucoup d'entre eux, on affirme que la violence conjugale a aussi eu un effet négatif sur leur performance au travail. Alors, c'est pas vrai, on essaye le plus possible d'entrer au travail, faire notre part, d'être, tu sais, une travailleuse ou une personne qui réussit dans la vie, mais c'est très difficile si on est subi à une situation de violence à la maison. C'est très difficile de ne pas amener ça avec nous au travail. Et les lieux de travail ont besoin de répondre à cette réalité parce que ça touche beaucoup des personnes dans la vie.
Oui. Et comment les milieux de travail peuvent reconnaître, parce que tu sais, vous dites, oui, il y a la violence physique, mais d'autres sortes de violences, est-ce que c'est quand même pas facile à déceler chez une personne? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut, chez les employeurs, qui peuvent peut-être faire attention pour surveiller mieux peut-être leurs employés féminines?
Oui, souvent les signes, oui, c'est vrai qu'ils sont difficiles à déceler. Si c'est physique, ça pourrait être quelqu'un qui porte des manches longues pendant l'été ou qui essaie de pas trop peut-être même des personnes si on est dans une situation hybride et il y a beaucoup de réunions virtuelles. Une personne qui arrête de partir sans caméra, qui n'apparaît pas comme avec son vidéo, mais également toutes sortes de changements de comportement qui ne sont pas habituels, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être c'est pas on peut pas assumer que c'est la violence, mais c'est sûr qu'il y a une tension, il y a quelque chose qui se passe si les changements d'un employé changent. Alors, s'il y a des difficultés de concentration, de la distraction, peut-être la personne reçoit beaucoup de textos et toujours sur son téléphone, ou peut-être c'est une personne qui est absente plus que d'habitude, ou qui arrive tard, ou un jour arrive, peut-être c'est un emploi où il faut porter une uniforme ou quelque chose de très spécifique, mais la personne n'a pas ses outils ou son uniforme pour le travail. Tout ça peut être des signes parce que la personne qui l'abuse peut utiliser son travail et les menaces de le forcer à perdre son travail comme une autre forme de contrôle.
Oui, comment les employeurs, le milieu de travail peut intervenir auprès de la personne si on a l'impression qu'il se passe quelque chose de pas correct? C'est un peu délicat parce que c'est un peu la vie privée. On se dit peut-être la personne ne voudra pas nous parler de sa situation. Est-ce que c'est vraiment ça? Quelle serait la meilleure approche pour les gens en milieu de travail?
Mais premièrement, il faut avoir une attitude d'entrer dans les conversations avec beaucoup d'empathie, ouais. Beaucoup de compassion, sans jugement, mais et sans jugement, sans savoir, ah oui, je sais que c'est ci ou que c'est ça. Il faut commencer avec juste la curiosité, demander des questions et avec l'attitude de bienveillance. Alors, est-ce que tout va bien pour toi? Je vois que t'es arrivé en retard plusieurs fois récemment. C'est pas ton genre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pas? Je sais que tu vives cette situation où je sais que tu es en difficulté, où je sais qu'il faut qu'on t'offre quelque chose, mais plutôt, est-ce que tout va bien? Et à partir de là, la personne peut comme ça peut-être décider de dévoiler quelque chose, mais la personne peut également dire, non, tout va bien. Ça va pour moi, je vais essayer d'arriver plus tôt le matin ou quoi que ce soit. Éventuellement, mais il faut pas, surtout si c'est clair pour toi comme superviseur ou collègue qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut ne pas lâcher la conversation. Peut-être pas répéter ça à tous les jours, mais revenir au sujet pendant les moments de suivi. Faire un suivi comme il faut, exprimer ton inquiétude et aussi offrir le soutien. Et ça se peut que c'est comme, je sais qu'il y a quelque chose, peut-être tu ne veux pas me dire qu'est-ce qui se passe, mais je sais qu'au travail, on peut t'offrir un soutien psychologique gratuit, quelques heures avec notre plan de bénéfices ou avantages sociaux.
Oui. Si j'ai bien lu, il y a une responsabilité aussi légale là, au niveau des employeurs. Est-ce que c'est bien le cas?
Il y a une réponse. Premièrement, si la personne demande des soutiens, oui. Au Québec et dans les autres provinces, je pense maintenant toutes les provinces ont des congés qui sont dédiés ou qui sont réservés pour les victimes de violences conjugales. Au Québec, c'est 5 jours payés et tous les employeurs doivent offrir ça. Et en plus, il y a des congés plus longs qui sont pas payés, mais ton emploi devrait être garanti.
Ouais.
Alors, il y a ce type de protection légale qui sont très importantes et les employeurs devraient les connaître et les mettre en place et même écrire leur politique et afficher leur politique pour la violence conjugale pour que tout le monde est au courant de ces possibilités.
C'est quelque chose qu'on ne penserait pas. Tu sais, on se dirait, le milieu du travail, c'est le milieu du travail. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Mais effectivement, le milieu du travail, souvent, on passe plus de temps au travail. Donc, c'est important qu'on s'occupe de cette problématique-là.
C'est absolument ça. En plus, le lieu de travail peut être une place où il y a quand même des dangers. Les dangers qui existent à la maison, c'est possible que la personne qui utilise la violence ou qui est abusive va entrer dans le lieu de travail et continuer l'abus. Ah ouais. Alors, à ce point-là, ça devient vraiment une responsabilité de l'employeur de protéger son employé de la violence, soit le conjoint, soit une personne, une membre du public, soit un client. Dans tous les cas, il y a la responsabilité que le lieu de travail soit un espace sécuritaire pour tous les employés oui. et tous les employés.
En terminant, Anuradha, on va donner le site web. Je pense qu'il y a plusieurs informations que les gens peuvent trouver, peut-être même des outils ou des informations en fait pour aider à mieux comprendre puis peut-être agir en termes de violence conjugale. Quel est le site web de votre organisation Hébergement Femmes Canada?
Le site web pour la campagne,
oui.
ça s'appelle jelarecommande.ca.
D'accord.
Et sur le site web, vous allez trouver quelques informations sur les 3 R dont j'ai mentionné reconnaître, réagir, et la 3e, c'est référer. Alors, ça, avoir des ressources auxquelles on peut référer les gens. Oui, et en plus, nous offrons une formation sur ce sujet pour les employeurs, pour les superviseurs, et vous pouvez également entrer votre nom, le nom de votre compagnie pour avoir une consultation avec nous, avec Hébergement Femmes Canada, et voir si une formation pourra peut-être vous aider
okay.
dans votre travail.
Merci beaucoup, Anuradha Dugalt. Tu es directrice générale d'Hébergement Femmes Canada. Merci de nous avoir fait mieux comprendre cette problématique et à la prochaine.
Merci beaucoup, Yvan.
Au revoir.
À la prochaine. Au revoir.
Nancy Audet, marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Vous écoutez l'émission Folie douce.
Nous poursuivons maintenant avec le sujet que tu as commencé plus tôt dans l'émission, Pierre, le lâcher-prise.
Le lâcher-prise, oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Apprendre le lâcher-prise ». C'est sur le site qui s'appelle Cap Santé Mentale, un site canadien, québécois même. Alors, c'est un article écrit par Mme Gabrielle Brindamour, qui est la directrice générale à l'Accolade Santé Mentale, qui a comme mission de soutenir et de regrouper les membres de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale. Et Mme Brindamour nous parlait tantôt de quelques pistes qui nous permettent de nous sentir mieux. Elle nous en propose 8. Alors, j'étais rendu à la 5e. Elle nous dit « Prenez de la distance face aux événements. Il n'y aura pas de solution miracle. » Sixièmement, prenez soin d'équilibrer votre temps. Ne négligez pas les activités qui vous font plaisir. Vous en avez besoin plus que jamais. Septièmement, n'assumez pas de responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous privez l'autre d'acquérir de nouvelles compétences. Ne sous-estimez pas les capacités de votre proche. Huitièmement, apprenez à vivre avec les aléas de la vie. Ce qui n'est pas facile, si tu veux mon commentaire.
Jamais, non.
C'est pas clair. Non. Oui. Alors, Mme Brindamour nous dit « Comment trouver la clé du bien-être? » Il s'agit d'une question difficile car il n'existe pas de mode d'emploi. Comme la majorité des gens, vous voudriez probablement que vos journées soient plus longues pour effectuer encore plus de choses et régler encore plus de problèmes. Devant cette course perpétuelle, il faut vous rappeler que vous avez besoin d'un temps de repos et de tranquillité. Un temps pour vous, pour retrouver le sens profond de votre vie. Réservez-vous des périodes uniquement pour vous et pratiquez des activités agréables sans la présence de votre proche. Rappelez-vous que la meilleure façon de l'aider est de préserver votre équilibre. Mais comment apprendre à vivre avec la situation? Eh bien, Mme Brindamour nous dit « Apprendre à vivre avec le trouble de santé mentale de votre proche demande un dépassement, un processus d'adaptation très important. Certains vous parleront d'un processus de deuil, d'autres d'acceptation, de détachement et d'autres de résilience. En fait, peu importe les termes pour expliquer le processus, il importe de trouver des moyens pour composer avec la situation, et ce, le plus sereinement possible. »
C'est comme se recomposer un peu une nouvelle dynamique de vie, en fait.
Ah oui.
C'est un gros changement. Là.
C'est pas facile.
Ouais.
C'est pas simple. Alors, Mme Brindamour nous dit, comme dans la gestion de tout problème, il y a des étapes à franchir avant de trouver sa zone de confort. En règle générale, les troubles de santé mentale s'introduisent au début de l'âge adulte. C'est donc dire que vous aviez sans doute imaginé des plans de vie pour votre proche et ce, peu importe le lien qui vous unit. À partir de maintenant, bien des choses ne se vivront plus de la même façon, évidemment. Vos sentiments d'inconfort sont probablement reliés à votre haut degré d'appréhension, votre impuissance vis-à-vis de la douleur de votre proche, votre peine de le voir perdre sa joie de vivre, votre chagrin relié au rêve et à la fierté que vous aviez de lui et l'instabilité qui s'installe dans votre vie. Sachez qu'il s'agit de réactions tout à fait normales. Dans cette douloureuse situation, vous devez prendre soin de vous. Il ne faut surtout pas vous culpabiliser. Il faut plutôt vous donner le droit à la colère et à la tristesse. Émotionnellement, vous allez vivre un état de choc où toutes les questions surgissent. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Il faut donc que vous trouviez des réponses à vos questionnements. À ce stade, il est possible que vous n'arriviez pas à croire ce qui se passe et il est possible que vous vous accrochiez à l'idée que tout va rentrer dans l'ordre, que tout va revenir comme avant. Il faut donc reconnaître votre réalité non pas comme une ennemie, mais comme une alliée à apprivoiser. Madame Brindamour nous dit « Soyez indulgent envers vous-même, car en plus d'être meurtri par votre peine, vous vous accablez probablement de reproches non fondés et vous avez l'impression de vous attaquer à un défi démesuré. » Votre souffrance ne se mesure pas, elle ne se compare pas. Il faut donc éviter de mesurer votre démarche à celle d'un autre. Il vaut mieux vous entourer de gens qui vont vous accueillir sans vous juger. Je dois m'arrêter ici, Yvan, mais je veux vous parler de l'accolade sentimentale. Au téléphone, c'est le 450-699-7059. C'est à Châteauguay.
Oui, merci pour cette chronique. Donc, les deux segments, espresso et espresso allongé, le lâcher prise. Merci, Pierre, pour ça.
D'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. La radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé. Vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège, j'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies, j'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis, j'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir, j'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Retiens les rêves, si on voulait, si on voulait. Quand ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte, si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait.
C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Quelques secondes avant de terminer cette émission, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine. Donc, oui. La première, « Haut les cœurs »
de Saramé.
On a entendu « Bon bain super »
de Laura Laune.
Dans la deuxième partie de l'émission, « Pourquoi »
de Marie-Pierre Arthur.
Et à l'instant, la très belle chanson « Retiens les rêves ».
Oui, de Grand corps malade.
D'ailleurs, la vidéoclip est excellente. Si vous avez la chance, ça, c'est vraiment bien fait. Merci pour ce choix musical, Pierre, et pour ton travail en régie.
Bien, bienvenue, mon cher.
Et aussi, ton espresso. Et ton espresso allongé, tu nous as parlé du lâcher prise. Alors, merci pour ton sujet. Notre invité en début d'émission, Pierre Mandeville, nous a présenté la traversée Centre de crise et de prévention du suicide. Et notre invité en début de deuxième demi, Anuradha Dugal, de Hébergement Femmes Canada, nous a sensibilisé sur la violence conjugale. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. We'll be right back.